Philippe Denis, Diego Arabal, chaque semaine, on vous retrouve avec grand plaisir. Et d'abord, un grand bonjour à tous les deux.
Bonjour Philippe,
bonjour Philippe.
Bonjour Diego Arabal. Bonjour Philippe, comment allez-vous ?
On va tous bien, je pense, puisqu'on est bon pied, bon œil. Bon, c'est un vrai plaisir de se retrouver chaque semaine autour de bouquins. Et là, vous allez nous entraîner dans un endroit, je crois, que vous êtes que vous avez en passion. C'est une librairie. Il y a des choses qui vous plaisent, et la librairie. D'ailleurs, tiens, Philippe Denis, juste avant, et vous, Diego,
oui.
Vous qui êtes auteur, qui aimez lire, qu'est-ce que ça vous fait de rentrer dans une librairie ?
Ah, c'est un monde à part.
Ouais, c'est une caverne d'Ali Baba.
C'est un monde à part.
C'est
la France pour
quand
moi.
Quand vous franchissez les portes d'une librairie, est-ce que vous ressentez d'abord, quand vous rentrez dans une librairie quelconque, l'ambiance de suite, où c'est que vous êtes tombé ? Est-ce que par rapport au comment c'est rangé, si c'est petit, si c'est grand, mm-hmm. Comment on vous accueille ? Comment vous ressentez là ?
Alors, je vais répondre en premier. J'avais une discussion hier soir avec un de mes amis qui vit à New York, qui est marié à une américaine, et qui est venu en France il n'y a pas très longtemps. Et il me disait dans le métro à New York, quand il part travailler, il ne voit jamais de personne avec des livres. Il m'a dit « je suis le seul ». Et il m'explique, même à New York, j'ai du mal à trouver des livres, parce qu'il y a beaucoup moins de librairies à New York, qui est quand même une ville, vous voyez, mondiale qu'à Paris. Là, il est venu en France, donc dernièrement, il a été à Lyon. Il m'a dit, j'ai dévalisé la librairie où j'étais, puisqu'à New York, vous avez quand même une librairie française. Et ça, je pense que c'est ce qui représente quand même notre pays, effectivement. C'est ce paysage des librairies. Hein. C'est ce dont on va discuter, d'ailleurs, avec notre invité.
Un invité que vous ne connaissez qu'à moitié,
connais, effectivement, que très peu,
Qu'on va accueillir,
voilà. Mais je vais en parler après, je vais laisser Diego répondre.
Moi, ce qui me frappe d'abord dans une librairie, alors ça dépend de la librairie. Il y a des grands ensembles librairies, des grandes enseignes de librairies. Mmh. Donc là, généralement, c'est beaucoup plus aseptisé. Mais quand on rentre dans des petites librairies de quartier, moi, ce qui me frappe d'abord, c'est d'une part le clin d'œil des livres, mais surtout l'odeur de papier. Cette odeur qui est indéfinissable et que on ne retrouve pas lorsqu'on lit sur tablette ou qu'on lit sur ordinateur. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est indissociable de la lecture. Cette odeur, une odeur d'enfance, puisque quand j'étais adolescent, j'adorais aller dans les librairies et m'installer et chercher, regarder.
C'était il y a juste simplement quelques années. Hein,
il est né, c'était il y a quelques années.
Il est né en 1975.
Voilà. Bon, on va en venir par contre à notre invité, hein, puisque ben là on a parlé des librairies. Il se trouve que notre invité aujourd'hui donc travaille donc dans une librairie à Toulouse. Hein. On va en parler avec elle. Alors c'est une invitée qui a commencé ses émissions avec nous. Rappelez-vous, c'était en septembre 2013. Il y avait donc Laurie Kuhn. Chloé Noni, c'est elle aujourd'hui donc qu'on va avoir comme invitée. Elle nous composait à l'époque, rappelez-vous, des sélections de livres jeunesse. C'était des jeunes qui parlaient effectivement à des jeunes. Alors Chloé, elle a fait comme nous. Hein. Elle a vieilli. Hein. Je veux dire, on n'a pas trop le choix les uns et les autres. Donc, on va l'accueillir aujourd'hui à Chloé Noni, qui est donc libraire à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, hein, qui est une des plus grandes librairies de France. Hein. C'est la deuxième, troisième librairie. Voilà. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Alors, vous avez beaucoup évolué, Chloé, depuis que vous êtes partie, puisque quand vous avez passé le bac, hein, vous êtes partie faire des études, donc on a arrêté effectivement ces émissions de radio. C'est la première fois de mémoire qu'aujourd'hui on va recommencer avec vous, donc à refaire une chronique.
La deuxième
effectivement fois qu'on va refaire une chronique littéraire. Vous avez raison de me reprendre. Vous allez nous dire un peu quel a été votre parcours, juste avant quand même de nous présenter les livres. Donc la librairie Ombre Blanche, aujourd'hui vous travaillez, mais je me suis laissé dire également donc que vous avez une chaîne Switch, que vous faites du théâtre d'impro. Dites-nous un peu quelle est votre vie, là, justement, avant qu'on parle des livres.
Alors, moi, après avoir fait mon parcours, tout mon parcours étudiant classique, donc moi, j'ai fait 5 ans d'études et j'ai eu mon DUT, ma licence, mon master. Oui, super. Après ça, j'ai continué à faire tout un tas d'activités comme ce que j'ai un peu toujours fait finalement. Et donc effectivement, aujourd'hui, j'anime une chaîne Twitch avec une très très bonne amie à moi, puisqu'apparemment les projets à deux, ça me réussit plutôt bien. Donc c'est qu'est-ce que Twitch pour les gens qui nous écoutent, c'est une plateforme de streaming, donc où on diffuse des vidéos en live. Et nous, notre sujet principal, c'est les jeux vidéo, puisqu'il se trouve que je n'ai pas que les livres comme passion et que les jeux vidéo et les livres, c'est toujours pas incompatible. Et effectivement, à côté de ça, je mène une vie associative bien remplie, avec énormément de théâtre d'improvisation là-dedans, qui évidemment habite aussi mes lectures, puisque que ce soit du pratique, des manuels de théâtre d'improvisation ou des pièces de théâtre classiques, j'essaie d'en lire toujours très régulièrement. Et effectivement, du coup, mon activité principale reste la librairie. Voilà, une vie bien remplie, on ne s'ennuie pas, mais pleine de culture et pleine d'histoires à raconter surtout.
Alors sur la chaîne Twitch, est-ce que vous juste vous pouvez nous dire pour les personnes, les auditeurs et les auditrices qui seraient intéressés, où est-ce qu'ils peuvent, le cas échéant, donc vous contacter pour vous suivre sur cette chaîne?
Alors pour ça, très simple, il suffit d'aller sur la plateforme Twitch, donc Twitch, pardon. Et notre chaîne s'appelle Cosmose, K-O-S-M-O-S-E, underscore, donc tiré du 8, si je ne m'abuse. Voilà, c'est vraiment une chaîne axée sur les jeux vidéo, où on discute pas mal, c'est quelque chose qui est vraiment pas forcément l'habitude des auditeurs de votre émission, mais pourquoi pas aller voir, et il se trouve que on joue énormément à des jeux vidéo qui sont axés sur les histoires, pas forcément les jeux vidéo qu'on a l'habitude de voir dans les documentaires ou qui sont présentés, qui sont les gros jeux vidéo joués. Non, nous, ce qu'on aime bien, c'est vraiment les jeux vidéo où on suit des personnages, où il y a des histoires, des conséquences à ce qui se passe. Et c'est finalement en ça que ça rejoint ma passion pour la lecture, je pense.
D'accord. Alors, on vient également aujourd'hui pour vous. Hein, là, on a vu un peu le panorama de tout ce que vous faites aujourd'hui. Vous travaillez, hein, je l'ai dit tout à l'heure également, donc à la librairie donc Ombre Blanche à Toulouse, hein, qui est la librairie, la grosse librairie de Toulouse. Et on vous a sollicité aujourd'hui pour nous faire une sélection. Alors, livre jeunesse, manga, on vous a dit, vous avez quartier libre. Hein, carte blanche, voilà, carte blanche, quartier libre. On va appeler ça comme ça, donc avec vous. Puis on espère hein, que ben, on pourra revenir vers vous à l'avenir pour une sélection de livres. Donc, on vous écoute pour cette sélection, qui est une sélection totalement libre de votre part. Allez-y, Chloé Nouni.
Oui, alors, ça n'a pas changé. Et aujourd'hui aussi, je voulais vous présenter des livres peut-être qui changent un petit peu de ceux qui sont présentés d'habitude sur cette émission. Et on va parler un peu d'OVNI, peut-être, de choses dont vous n'avez jamais entendu parler. En tout cas, Philippe Diego, vous allez me dire si vous connaissez. Le premier livre que je voulais présenter, c'est un grand classique manga que je vous recommande très vivement à tous les deux. Notamment Diego, je sais votre amour pour le polar, les histoires à suspense. C'est un manga qui s'appelle Monster, qui a été écrit par Naoki Urasawa, le père de l'ASF en manga. Et c'est lui qui a également amené des récits extrêmement palpitants. Monster, c'est un manga en 9 tomes où l'on suit l'histoire d'un neurochirurgien extrêmement réputé en ancienne Allemagne de l'Ouest. Et c'est un neurochirurgien qui est promis à de grandes choses, qui a énormément de talent. Et tout le monde pense qu'il va avoir une promotion. Il est fiancé à la fille du directeur de l'hôpital. Et en fait, au milieu de tous ces reflux un peu politiques, un peu de pouvoir, lui, ce qu'il veut vraiment, c'est sauver ses patients. Et pour lui, l'intérêt d'un médecin, c'est sauver toutes les personnes qu'il peut sauver. Et il se trouve qu'un jour, on va lui demander de prioriser un grand chanteur plutôt qu'un homme qui vit dans des quartiers turcs assez pauvres, alors qu'il est arrivé avant. Il se trouve que l'homme va mourir et la femme de cet homme va accuser le neurochirurgien de meurtre. Et lui va le prendre très très à cœur et va remettre en question tout le sens de son métier jusqu'au jour où le même cas de figure se présente. Le maire a fait une crise cardiaque, il va falloir l'opérer. Et un jeune garçon, dans un accident assez étrange, se retrouve également en service juste avant le maire. Et il se trouve qu'il a une balle dans la tête, mais il est toujours vivant. Et évidemment, le seul à pouvoir le sauver, c'est lui. Mmh. Il décide donc de prioriser ce jeune garçon, il va lui sauver la vie. Il va tout perdre à partir de là, puisque tout le monde va lui reprocher. Et il se trouve que ce jeune garçon, par la suite, va être l'auteur de crimes absolument abominables qui va remettre en question toute la vision du docteur Tenma. Et qui lui va se demander, est-ce que, comme il a sauvé ce garçon, il est lui aussi quelque part un peu criminel ? Est-ce que lui aussi a participé à ces crimes-là ? Et on va suivre toute son évolution et la poursuite de cet homme qui devient complètement obnubilé par la poursuite de ce garçon qui est absolument terrible et qui est vraiment un personnage extrêmement bien écrit, qui est vraiment cruel et on ne sait pas pourquoi il agit. Et on va déambuler dans ces 9 tomes au milieu d'une série de personnages tous plus profonds, tous plus faillibles les uns que les autres pour essayer de comprendre pourquoi donc, ce jeune garçon, Johan, commet tous ces crimes-là, et on va descendre au cœur d'affaires extrêmement sombres au milieu de la guerre froide entre les deux blocs allemands. Et c'est vraiment un manga que j'ai trouvé extraordinaire. Il faut savoir que Naoki Urasawa fait partie de mes mangaka préférés. Monster n'est pas mon manga préféré de lui, mais je pense que pour le public et pour vous deux, Philippe et Diego, c'est un manga qui pourrait vraiment vous plaire. C'est vraiment un thriller psychologique mené d'une main de maître. Il y a rien qui dépasse, il n'y a pas de bout de gras, tout est essentiel, tout est important et tout est là pour vous mettre en haleine et c'est vraiment merveilleux, quoi. Lisez-le.
Eh bien, Chloé, c'est une excellente proposition. Je crois que je vais me mettre au manga. C'est un univers que je ne connais absolument pas. Et ouais. Ce sera avec plaisir que j'irai jeter un œil. En tout cas, le thème est vraiment très intéressant puisque c'est à la fois le thème de la responsabilité et est-ce que on est responsable des actes des autres à un moment donné. Donc c'est vraiment intéressant. Moi j'avais juste une question. J'ai l'impression que souvent les mangas s'étalent sur plusieurs tomes. C'est lié à des questions techniques ou c'est un choix spécifique pour le manga?
Alors, il me semble qu'au tout départ, c'est vraiment juste un choix assez spécifique, mais il y a en fait majoritairement des raisons d'édition. C'est-à-dire que les mangas, en fait, sont publiés dans des magazines journaliers ou hebdomadaires. Mmh. Et donc, en fait, ils les rédigent comme des feuilletons, comme les feuilletons qu'on avait auparavant.
Qu'on avait, voilà. Ouais.
Au 19e, il y avait, d'accord, oui. Ok, dans les journaux. Okay.
Et en fait, c'est encore le cas aujourd'hui. Et du coup, c'est un système de publication qui est très particulier. Où en fait les dessinateurs font des chapitres par chapitre et chaque jour ou chaque semaine un nouveau chapitre sort dans tel ou tel grand magazine avec plusieurs mangas, donc vous avez plusieurs histoires en fait dans le même magazine et du coup ça fait, enfin au final il y a des séries puisque ça dure en général assez longtemps.
Et alors ça, ce que vous citez là, Chloé, c'est que ça c'est une pratique qui se fait au Japon plutôt, non?
Ah oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment purement japonais. La majorité des mangas qu'on lit aujourd'hui sont traduits et viennent du Japon. Mais en fait, même les mangas qui sont français correspondent quand même pas mal à ce modèle. Après, il y a de plus en plus de séries courtes qui se font. Ils changent un petit peu leur modèle. Enfin, ils s'adaptent, quoi. Il y a des nouvelles choses qui arrivent. Il y a toujours eu des one-shots. Il y a toujours eu des séries à 2 ou 3 tomes maximum. Mais c'est vrai que c'est classique de voir des très très longues séries en manga, quoi.
Parce que je me rappelle, Chloé, bon, durant votre cursus universitaire, hein, quand vous faisiez votre DUT, donc métier du livre à l'IUT de Bordeaux, vous aviez été donc au salon de la BD donc à Angoulême, hein, où là-bas on trouve effectivement, hein, je me rappelle, j'y étais venu également, donc vous étiez sur le stand d'une librairie qui est à Pau et d'une maison d'édition. Et vous m'aviez emmené, je me rappelle, vous m'avez piloté pour m'emmener sur des stands de manga, puisque le manga n'existait pas au tout départ, hein, quand le salon de la BD a été créé à Angoulême dans les années 70. Petit à petit, il y est rentré. Aujourd'hui, le manga, à votre avis, c'est quoi? C'est une littérature qui est lue plutôt par les jeunes, parce que vous nous le recommandez, c'est vrai qu'on n'en lit pas, Diego et moi.
Ouais.
C'est plutôt par les jeunes, jusqu'à quel âge à peu près? De quel âge à quel âge?
Je pense que c'est plutôt par les jeunes, mais c'est une tendance qui est vouée à changer parce qu'en fait, ça fait plusieurs années que les jeunes en lisent et qu'en fait, les jeunes ne sont plus si jeunes. Et j'en fais partie.
Vous êtes jeune par rapport à nous encore, Chloé. Hein,
Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on dit les jeunes, on imagine peut-être des adolescents et c'est vrai que c'est souvent dit dans l'imaginaire des gens. Mais en fait, il y a de plus en plus de personnes qui vont avoir une trentaine d'années, voire plus, qui lisent des mangas depuis très longtemps. Et en fait, quand on a 30, 40 ans, est-ce qu'on parle de jeunes dans l'esprit des gens? Voilà,
moi je dis jeune. Moi qui ai plus du double, je dis oui.
Pour vous qui travaillez dans une librairie, donc on le disait tout à l'heure, hein, la librairie Ombre Blanche à Toulouse, Chloé, les mangas, c'est une part de vente importante pour une librairie, par exemple, comme Ombre Blanche?
Alors, pour Ombre Blanche, c'est particulier parce qu'on est une très très grosse librairie et qu'on met en avant d'autres choses. Mais effectivement, le manga reste très important et c'est une littérature dont on ne peut pas se passer et qu'on est obligé de réfléchir parce qu'aujourd'hui, il y a un public qui est extrêmement important. Et que là, justement, autant je défendais le fait qu'il y a de plus en plus de personnes plus âgées que des adolescents qui en lisent, autant le public adolescent vient de plus en plus, quasiment exclusivement, pour des mangas. Enfin, c'est pas vrai, mais il y a un nouveau public, en tout cas, d'adolescents qu'on n'avait pas forcément avant, qui vient et qui lit exclusivement des mangas. Et c'est un public qu'on n'a pas envie de perdre, puisqu'évidemment, faire lire les jeunes, c'est super important. Et notamment, leur faire lire des mangas, en fait. Donc, ça reste une littérature qui est importante à défendre, ne serait-ce que par le public qu'elle attire. Mais en plus de ça, effectivement, même financièrement, sur des plus petites librairies, ça peut faire des parts de marché extrêmement importantes qui sont considérables.
Et quand vous parlez de manga là, de tranche d'âge, donc l'adolescence, on va dire 12-18, c'est dans cette tranche d'âge là où est-ce qu'on va trouver des jeunes plus jeunes, c'est-à-dire qui sortent de CM2, qui rentrent en 6e et qui lisent déjà des mangas?
Oui, de plus en plus, on a de plus en plus. En fait, le public du manga s'élargit de façon générale, hein, que c'est par l'âge.
Par le bas et par le haut. Il s'élargit par le bas et par le haut, donc.
Ouais, tout d'accord. À fait. On a de plus en plus de jeunes qui viennent et nous demander des mangas. Il y a des mangas de plus en plus pour les enfants qui se font, d'ailleurs, puisqu'on répond à la demande, donc les maisons d'édition s'y mettent aussi. Et il y a également de plus en plus de mangas pour les adultes qui sont publiés. Alors Monster n'en fait pas partie pour le coup, puisque lui, c'est un des plus anciens. D'ailleurs, c'est rigolo, vous mentionnez tout à l'heure le salon d'Angoulême où vous étiez venu. C'était l'année où Naoki Urasawa est venu au salon d'Angoulême pour dire que c'était pas n'importe qui. Mais par contre, oui, il y a de plus en plus de nouveaux mangas qui sont vraiment pour le grand public, qui sont donc traduits en France, puisqu'évidemment, il y en a beaucoup plus au Japon et depuis plusieurs années. Et effectivement, en France, on est le deuxième pays le plus consommateur de mangas.
Ah, d'accord.
Au
monde du monde. Ah, c'est étrange. D'accord. Après le Japon, donc le Japon en premier, je suppose, et la France en deuxième.
Et je crois que c'est ça. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble. En tout cas, en Europe, c'est sûr, et dans le monde, il me semble.
D'accord.
En fait, les mangas, on les trouve dans des librairies généralistes, mais on le trouve aussi dans des librairies spécialisées. Par exemple, ici à Tarbes, il y a la librairie Le Bédévore présente des BD, bien sûr, mais aussi des mangas.
Oui, qui ne fait pas de livres, effectivement.
Non, il ne fait pas de livres.
C'est compliqué aujourd'hui d'être librairie spécialisée BD et de ne pas avoir du tout de manga. C'est un choix, mais c'est de plus en plus compliqué. Et en plus, il y a des formats qui sont de plus en plus hybrides. Il y a certains ouvrages, en fait, on a du mal à dire est-ce que c'est un manga, est-ce que c'est une BD. Il y a des gens qui vont, par exemple, considérer que certains auteurs, comme... Jiro Taniguchi, où on a des gens qui vont nous dire ça c'est de la BD japonaise. Oui, mais du coup c'est du manga. Mais effectivement, voilà, qu'est-ce qu'on considère et qu'est-ce qu'un public, la clientèle considère comme étant manga ou pas. C'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui, je pense, de naviguer sans.
Ouais. Mais qu'est-ce qui permet de différencier la bande dessinée d'un côté du manga de l'autre? Est-ce qu'il y a une définition littéraire à défaut d'être la définition du public?
La définition, c'est que le manga, c'est de la BD japonaise.
D'accord.
Donc en fait, on lit tout ce qui est dessiné classiquement comme un manga, en fait, et qui se lit dans le sens...
Dans le sens inverse de nos habitudes, oui.
Voilà. Le sens de lecture japonais, en fait, c'est du manga. Et que ce soit très bien dessiné, que ce soit des histoires qui soient pas des histoires de bagarre, parce qu'on entend toutes des sortes de personnes qui nous explique ce que pense être le manga. La définition, en théorie, c'est vraiment, c'est de la bande dessinée japonaise. Il y a une façon de dessiner, il y a évidemment la même façon qu'on a des termes, le terme bande dessinée en France, normalement, c'est seulement les albums qui ont une taille particulière, avec 57 pages, voilà, etc. C'est ce qui est censé être la bande dessinée. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large, évidemment. Voilà, et on...
Et est-ce qu'il y a des mangas en couleur? Parce que l'image que j'ai, moi, du manga, c'est du noir et blanc. Mais est-ce qu'il y a des mangas en couleur?
Il y a des mangas en couleur. C'est assez rare, parce que pareil, c'est aussi des techniques d'édition et de publication et de dessin. Mais il en existe. Il existe quelques mangas en couleur. Et il y a des planches qui sont réalisées en couleur régulièrement dans les mangas, notamment au début des chapitres. Où c'est très régulier d'avoir des planches.
Ah, d'accord. Donc une façon de marquer le début du chapitre, en fait, c'est ça ?
C'est ça, exactement, okay.
Et celui que dont vous parlez, donc Monster, ce manga-là, c'est un manga en noir et blanc, je suppose, Chloé, d'accord. Il est publié à quelle maison d'édition ?
Il est publié chez Kaba Édition.
D'accord, Kaba Édition.
C'est en même temps, mais oui, c'est ça.
D'accord. C'est une maison d'édition, je suppose, qui est spécialisée sur les mangas ?
Oui, tout à fait.
D'accord, et qui est là. On va embrayer sur votre deuxième ouvrage, Chloé Nouni. Allez-y, on vous écoute.
Alors, comme deuxième ouvrage, je voulais vous parler d'un livre jeunesse, ado plutôt, qui s'appelle « J'ai 14 ans et ça n'est pas une bonne nouvelle » de Joey Tech, qui est une autrice française, où l'on suit, c'est un roman très très court, je crois qu'il ne fait même pas 100 pages. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui habite dans un pays qu'on n'identifie pas, qui revient de l'école pour les vacances, qui rentre dans son village, un village qui est loin, qui est dans un pays qui semble être assez aride. Et donc elle rentre chez elle, dans sa famille très 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 nombreuse. Et elle est ravie, elle a plein de rêves, elle veut partir à l'université, l'année prochaine elle va peut-être pouvoir rentrer au lycée, elle a fait tout le collège, elle est vraiment ravie. Et quand elle rentre, elle sent que les choses ont changé, et en fait petit à petit on lui annonce qu'elle va être mariée et qu'elle ne pourra plus retourner à l'école. Et c'est l'histoire de cette jeune fille qui se retrouve coincée au milieu de sa famille et des gens qu'elle aime, et en même temps qui, là du coup, la font terriblement souffrir. Et des combats des siens, des positions de chacune des personnes du village, puisque tout le village y participe, des positions de ses amis. Évidemment, ça parle des mariages forcés. C'est une histoire qui est à la fois terrible et à la fois très très belle, et qui, je pense, est vraiment nécessaire. C'est un roman magnifique qui est écrit très simplement, d'une justesse vraiment très simple, très épuré, et pourtant on va à l'essentiel et tout est transmis. C'est très émouvant. Et c'est vraiment un roman que je mettrais entre les mains d'adolescents qui se posent des questions, qui ont envie de lire des romans, que ce soit des romans féministes ou qui leur parlent d'histoires qui se passent ailleurs dans le monde, et peut-être pas si ailleurs que ça d'ailleurs. C'est vraiment très 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 belle histoire, je sais pas, mais en tout cas importante. Et que vraiment, je pense qu'il est important de lire des choses comme ça.
Ok, pour ce deuxième livre, Chloé, on va en faire juste un dernier, parce qu'après on va arriver au terme de cette émission. Ce qu'on vous proposera le cas échéant, si vous avez d'autres livres, ça sera de réenregistrer une autre émission effectivement avec vous. Allez-y, on vous écoute, Chloé.
Et pour le dernier livre, c'est pareil, je vous représente encore une série, alors là, terrible, une série de bandes dessinées, du coup, cette fois, qui est une bande dessinée pour adolescents, qui, pareil, pour moi, est très, très importante. Je pense que c'est ma bande dessinée jeunesse préférée actuellement. C'est une BD qui compte 5 tomes, et qui s'appelle Fille unique, au pluriel, où l'on va suivre l'histoire de Paloma, qui est une jeune fille qui est en famille d'accueil, qui a pas mal de problèmes et qui n'arrive pas à se faire d'amis. Et elle vogue de foyer en foyer jusqu'au jour où elle rencontre Liselotte, qui va s'occuper d'elle et qui lui dit « Je veux bien te garder avec moi à condition que tu trouves des amis. » Et il se trouve que Liselotte est la seule à vraiment l'écouter et à prendre soin d'elle, donc elle a vraiment envie de rester avec elle. Elle essaie de se faire des amis. Elle lui laisse un an, et au bout d'un an, elle s'est toujours pas fait d'amis. Donc Liselotte lui laisse un an de plus, puis un an de plus, puis un an de plus, jusqu'au jour où Paloma, une fois arrivée au lycée, va recevoir un mot où on lui propose de faire partie d'un club d'amis. Et on lui donne rendez-vous à un endroit. Alors, curieuse, elle y va et elle se retrouve avec quatre autres filles. Et l'une d'elles les a réunies toutes les cinq en leur expliquant « On est toutes un peu bizarres. On est toutes un petit peu particulières. On a toutes une différence. Mais je pense qu'ensemble, on s'en sortira plus forte. Alors, est-ce que vous êtes partant ?» Et Paloma vrille complètement. Elle explose de colère et elle refuse complètement d'être leur amie. Et elle s'en va. Et de ce fait-là, les quatre autres vont essayer de comprendre pourquoi Paloma réagit comme ça. Et on va se plonger, du coup, dans la vie de Paloma. Elles vont essayer de découvrir qui elle est. Et au fur et à mesure des tomes, on va découvrir les failles et les différences de chacune d'entre elles. Pourquoi elles sont si particulières. Et on va voir toutes leurs failles et toute la force de ces cinq filles-là et comment elles se tirent vers le haut les unes les autres avec tout leur caractère très différent. Et c'est une magnifique histoire d'amitié, une très très belle histoire aussi sur la difficulté de l'adolescence. Et c'est très très bien écrit. C'est un trio. Donc les scénaristes, c'est Becca, qui est un duo de scénaristes très très chouette. Et l'illustratrice s'appelle Camille Méhu. C'est une jeune femme, pareil, qui a 25 ans, qui a été diplômée des Gobelins. Et c'est sa première bande dessinée. Elle est incroyable. Elle a un trait magnifique, très simple, mais qui vraiment, je pense, parlera à tout le monde. C'est une super chouette BD à mettre dans les mains de vos ados et dans les vôtres, si vous êtes
et curieux. Dans les nôtres. Et vous avez parlé des Gobelins, juste pour nous dire ce qu'est l'école des Gobelins, Chloé Denis, parce que je ne suis pas persuadée que tout le monde connaît.
Allez-y. L'école des Gobelins, c'est une des plus grandes écoles d'illustration de Paris. Enfin, les plus connus, quoi. Voilà, les plus réputés de façon générale à l'international aussi.
Merci beaucoup à tout. Merci à Chloé aussi.
Exactement.
Qui revient petit à petit de temps en temps sur. Et ça fait du bien d'avoir aussi un peu de jeunesse. Merci beaucoup à tous. Merci à Diego.
Et nous de continuer à faire ces émissions de la joie et la bonne humeur.
Merci. Ah oui,
c'est le plus important.
Ça,
voilà, parce que je pense que c'est partagé. Exactement.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir.